C'est le dress code ce matin du pull rayé. T'as remarqué ? Bon, trêve de plaisanterie, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et pour commencer, j'aimerais remercier Paul de m'avoir invité. Et vous remercier vous de me permettre d'être là ce matin pour vous apporter ce que j'ai préparé. Je vous adresse les salutations de l'église de Pierre-Latte, d'où je viens. Une église qu'on a rejoint avec mon épouse Gaëlle et mes deux enfants Lilia et Noéline, qui est depuis 8 ans maintenant, une église qui il y a 8 ans était un peu plus petite que la vôtre et qui le Seigneur a fait croître, et on est tous les jours ébahis de voir ce qu'il fait, et on veut le remercier. Et j'en profite pour vous dire que le week-end du 8 mai, nous fêtons nos 30 ans. Et nous allons avoir un programme. Alors Pierre-Latte, c'est pas très près de chez vous, mais c'est à 1 heure, donc c'est pas très loin. Donc si vous avez envie d'aller un peu dans le nord, vous pouvez aller sur Pierre-Latte le week-end du 8 mai, le samedi en particulier. Il y aura plein de choses pour les enfants, pour les plus grands. Je crois qu'il y aura un concert qui est prévu aussi le samedi soir. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter. On se fera un plaisir de vous accueillir. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une histoire, mais avant de prendre la Bible, j'aimerais vous raconter une autre histoire. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que le nom de Bart Whitaker vous parle ? Peut-être pas trop, hein. Alors c'est un nom qui semble américain, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est un condamné à mort célèbre. Alors aux États-Unis, c'est vrai que la peine de mort existe dans certains États, et son histoire, elle est assez terrible. En fait, c'était un jeune homme qui se trouvait dans une famille avec une sœur et des parents. Et en fait, dans cette famille, en fait, il y a eu quelqu'un qui est venu et qui a agressé la famille, qui est rentré dans cette maison et qui a tué violemment la fille, la maman, qui a blessé le père et qui a blessé ce fils. Sauf qu'il s'est avéré qu'en fait, ce meurtre avait été commandité par le même fils, et qu'en fait c'était lui qui avait voulu assassiner toute sa famille. C'est une histoire qui est révoltante, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Ce jeune homme, après de nombreuses péripéties, parce que c'est pas lui qu'on a accusé en premier, s'est retrouvé condamné à mort. Et en fait, dans cette histoire, c'est pas son histoire à lui que j'aimerais vous parler, mais c'est celle de son père. Et en fait, son père a voulu pardonner à son fils, et a réussi à pardonner à son fils. Et il le dit que c'est pas grâce à lui, mais que c'est grâce à Dieu qu'il a réussi à pardonner à son fils. Et en fait, son pardon est allé au-delà de juste des mots, parce qu'il s'est battu pendant des années pour que son fils échappe à la peine de mort. Et son fils a finalement échappé à la peine de mort 45 minutes avant le moment où il devait effectivement être tué, et grâce à ce père qui l'a pardonné. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse parler de pardon. Alors d'un pardon qui va revêtir différentes formes, et en particulier j'aimerais vous parler de pardon dans une histoire de la Bible, une histoire qui est celle de l'un des personnages les plus, j'ai envie de dire, les plus passionnantes de l'Ancien Testament, en tout cas pour moi, à tel point qu'elle prend 15 chapitres du livre de l'Exode. C'est quand même pas beaucoup de personnages qui prend 15 chapitres de la Bible. C'est l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvé. Alors Joseph, c'est un personnage que l'on connaît probablement tous, un personnage dont on parle régulièrement aux enfants, sûrement le dimanche matin, ça arrive qu'on parle de ces histoires aux enfants, mais c'est un personnage dont on peut aussi s'inspirer pour de nombreux aspects, et le pardon en est un très bon exemple. Alors avant qu'on rentre sur le texte de ce matin, j'aimerais juste vous faire un petit peu de contexte sur la vie de Joseph et vous dire à quel moment de la vie de Joseph je vais parler, parce que sa vie a été riche, hein. Je ne vais pas lire 15 chapitres de l'Exode ce matin avec vous, sinon je pense que je vais vite vous perdre. Mais Joseph, il vient d'une famille dysfonctionnelle. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, oui, aujourd'hui, en 2020, les familles sont dysfonctionnelles. Je pense que la famille de Joseph, elle en tenait une sacrée couche, hein. Vous vous souvenez l'histoire de Léa et de Rachel? 11 frères, enfin des demi-frères, des frères qui sont jaloux, un père qui préfère Joseph aux autres, qui lui offre une tunique, enfin, famille catastrophique, je pense qu'on peut le dire. En plus, Joseph, vous savez, il a été trahi par ses frères l'ont vendu, ils ont voulu le tuer d'abord, hein, intention de meurtre, ensuite ils l'ont vendu comme esclave en Égypte, et ils ont fait croire à leur père que son fils préféré était mort. Voilà, le truc... Donc la vie de Joseph, elle commence pas très bien, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Joseph se retrouve esclave en Égypte. Il commence enfin à se refaire un peu dans la famille de Potiphar. Et finalement, patatras, il se retrouve accusé à tort par la femme de son maître, se retrouve jeté en prison. Il y croupit pendant de nombreuses années avec quelques lueurs d'espoir avec en aidant le panetier et les chansons, dans le détail, mais finalement il y reste encore longtemps. Et finalement, le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour Joseph dans sa vie, le plan de Dieu se met en place. Il se met en place depuis le début, mais Joseph le voit enfin, j'ai envie de dire, et il se retrouve premier ministre du pharaon d'Égypte, le poste le plus important de la région. Je ne sais pas si aujourd'hui on vote pour les présidents de la République, c'était quelqu'un d'un peu aussi haut que le futur président de la République française, Joseph, en Égypte. L'histoire ne se termine pas là. Il y a une famine, vous connaissez cette histoire, une famine dans tout le lieu autour de l'Égypte, dont la famille de Joseph, qui est restée à Canaan, souffre. Et les frères de Joseph se retrouvent à venir demander à manger en Égypte et se retrouvent en face de leurs frères qu'ils ont vendus, ne le reconnaissent pas. Il y a toute une histoire avec Benjamin qui doit revenir. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a toute une histoire et Joseph ne se révèle pas à ses frères. Et on arrive à ce moment-là, et là on se retrouve à un passage dans Exode, Genèse, et c'est à ce moment-là que Joseph va se révéler à ses frères. Et c'est ça que j'aimerais vous lire. Donc le texte que je vous propose de lire ce matin, c'est dans Genèse, effectivement. Alors j'ai même pas noté lequel de Genèse. Je vais vous demander de le prendre, mais je vais vous demander quelques secondes pour que je retrouve le chapitre. Ça doit être autour de 45, ouais, tout à fait. C'est Genèse 45, tout à fait. Merci beaucoup. Je vois que vous suivez bien, ça me fait plaisir. Alors, je vous propose de lire Genèse 45. Alors, c'est un texte qui est un petit peu long. Donc, du coup, en le lisant, je vais faire quelques pauses et je vais déjà nous encourager par quelques éléments de ce texte. Sans rentrer dans le pardon, mais déjà juste en le lisant, des choses que l'on peut se rendre compte juste en regardant ce texte. Alors, Genèse 45, je lis donc à partir du verset 1. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Je fais une pause. Intéressant de voir ce Joseph, premier ministre d'Égypte, se retrouver comme ça, en pleurant devant ses frères. Ce que j'aimerais juste nous dire là, c'est que dans nos relations les uns avec les autres, il y a de la place pour l'émotion. On se retrouve ici avec un Joseph puissant, un Joseph qui a un statut social très élevé, mais qui n'hésite pas à montrer son émotion vis-à-vis de ses frères, en pleurant et en sanglotant si fort que ça s'entend autour de lui, donc une émotion qui est palpable. Je continue au verset 5. « Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi. Toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bovins, tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Car il aura encore 5 ans de famine. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est moi qui vous parle. Informez mon père de tous les honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de le faire venir ici. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent, sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Je fais une nouvelle pause. Ici, on voit Joseph qui explique les choses à ses frères. Et ce que j'aimerais juste en faire sortir ici, c'est que Joseph, il regarde sa vie, il regarde ce qui s'est passé depuis le moment où il s'est fait vendre par ses frères. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la main de Dieu. Il voit le plan de Dieu qui s'est déroulé pour lui. Est-ce que nous avons cette habitude de regarder dans le passé et de voir comment Dieu a déroulé son plan pour nous? Voilà une petite chose que l'on voit de la part de Joseph, mais qui est une grande chose à mettre en application pour nous. Je continue au verset 16. La nouvelle de l'arrivée des frères de Joseph se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Elle fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph, « Tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte. Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmets-leur l'ordre suivant. Emmenez avec vous d'Égypte des chariots pour vos enfants et vos femmes. Faites-y monter aussi votre père et revenez, n'ayant pas de regrets pour ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à votre disposition. » Les fils d'Israël firent ce qu'on leur avait dit. Joseph leur procura des chariots selon ce qu'avait déclaré le Pharaon et leur donna des provisions pour le voyage. Ici, je trouve juste intéressant de se noter un petit point. Une anecdote, c'est que le Pharaon va envoyer des chariots pour faire amener tout le monde de Canaan. On imagine que le père de Joseph, Jacob, était loin d'être jeune et que ce petit détail a dû changer la manière dont Jacob allait vouloir et toute la famille allait se déplacer en Égypte. Ça nous fait penser que Dieu il n'oublie pas les petits détails dans nos vies. Les chariots, à l'époque, c'était un peu les Tesla, ou c'était le luxe du déplacement. Canaan, c'était très loin. Et Dieu, il a pourvu jusqu'à ces petits détails. Il n'était pas là juste pour sauver son peuple, cette famille qu'il avait choisie de la famine, mais aussi il a pourvu aux moyens de transport, et un moyen de transport qui était du luxe pour l'époque. Je termine à partir du verset 22. C'est Joseph qui parlait de « il ». Donc « il offrit un habit de rechange à chacun de ses frères. Quant à Benjamin, il lui donna 300 pièces d'argent et 5 habits de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son voyage. Il prit congé de ses frères en leur recommandant de ne pas se disputer en chemin. Et ils s'en allèrent. » Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais parler du pardon, parce que ce passage parle du pardon de Joseph vis-à-vis de ses frères. Et pour parler du pardon, j'aimerais nous enseigner par trois enseignements, trois éléments qui me semblent primordiaux que nous enseigne cette histoire à propos du pardon. Alors j'ai intitulé cette prédication « Le pardon est un plat qui se mange froid ». D'habitude on dit la vengeance, mais je trouvais que ça marchait bien aussi, ça pouvait marcher avec le pardon. Alors le premier enseignement que j'aimerais nous donner, ça concerne l'abandon. Alors dans les chapitres précédents, on voit Joseph en position de force vis-à-vis de ses frères. On voit Joseph, premier ministre d'Égypte, qui a ses frères qui arrivent, qui sont tout tremblants, qui cherchent à avoir à manger. Et on pourrait imaginer Joseph, ça fait 20 ans hein, qu'il a été vendu par ses frères, qui aurait ruminé cette trahison pendant ces 20 années, l'arrachement à sa famille, l'arrachement à son pays, tout ce qu'il a vécu comme souffrance en Égypte, la soif de vengeance, et là, waouh, super, l'occasion se présente, je vais pouvoir me régaler. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de film où une intrigue est mêlée à une histoire de vengeance, et cette vengeance, elle est complètement enlacée dans l'intrigue, et en fait, on se rend pas compte de ça, et on se rend compte qu'à la toute fin, en fait, c'est la vengeance qui est la motivation de tout ce qui s'est passé pendant l'ensemble du film, et qui est le liant de tout ça au niveau de l'histoire. Cette vengeance qui a pris des années avant de se mettre en lieu. On aurait très bien pu imaginer une scène similaire avec Joseph, on le voit jouer un peu avec les nerfs de ses frères dans les chapitres précédents et finir par les punir, je ne sais pas comment, en les mettant en prison. On pourrait imaginer toutes sortes de fins un peu hollywoodiennes à cette histoire. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors Joseph a une attitude qui pourrait faire penser à de la vengeance. Je ne sais pas, quand on lit le texte, on pourrait se poser la question, mais en réalité, c'est pas ce que Joseph cherche à faire. Joseph, il cherche à faire une seule chose. Il cherche à savoir si ses frères ont changé. C'est la seule chose qu'il cherche à faire. Il cherche à savoir si ses frères ont changé en testant leur cœur et savoir s'ils ont appris de leurs erreurs. Mais à aucun moment, il ne prend plaisir à se venger. Joseph, en fait, il dit une chose, ou il pense une chose. À Dieu la justice, et non notre vengeance. À Dieu la justice, et non notre vengeance. Joseph, il veut pas se faire justice. Il sait que c'est Dieu qui fait justice. Il veut pas se faire vengeance. Il abandonne la justice à Dieu. Et on se rend compte que Joseph, il veut pas se faire justice, parce que il veut pas l'appliquer, cette justice. Quand Joseph parle à ses frères, il dit « Ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés. » Il leur montre qu'il leur en veut pas. Il va plus loin en leur disant « Mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui l'a fait. » Waouh ! Est-ce qu'on est capable de dire ça à des frères qui nous ont trahis ? Mais il va encore plus loin, il les invite à le rejoindre. Il dit « Ok, c'est bon, je vous pardonne, mais bon, restez bien loin de moi quand même. » Non, il les invite à le rejoindre, il va leur venir en aide. Et il va même jusqu'à leur offrir des cadeaux, et pas n'importe cadeau, quel cadeau, des habits. Et je trouve que c'est une curieuse coïncidence quand on sait que ses frères l'ont dépouillé de l'habit, de la tunique multicolore que son père lui avait offert. Donc ici, la clé de ce pardon, c'est l'abandon de la vengeance à Dieu, de la justice à Dieu. Dieu ne se venge pas, Dieu fait justice. Et ici, on peut pas dire que Joseph est un super-homme capable d'aller au-delà du mal qui a été fait par ses frères, par humanisme ou sensibilité de cœur. Mais il le dit lui-même, il reconnaît que c'est Dieu qui dirige toute chose et que son rôle à lui, c'est d'être au service de Dieu et que chacun est à sa place. Joseph, il obéit et il pardonne. Dieu, il dirige et il fait justice. Chacun son rôle. Alors, je ne sais pas comment vous vivez le pardon dans votre quotidien. Je ne sais pas si vous avez en ce moment ou dans votre passé quelqu'un qui vous a fait du mal et pour qui le pardon n'est pas acquis. Peut-être que vous vous dites « c'est trop dur » ou « c'est pas juste » ou « elle m'a fait trop de mal ». Je peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Cette soif de justice, qui peut d'ailleurs se manifester aussi par une soif de vengeance, fait que, parfois, et il est humain de ne pas être capable de pardonner tant que justice n'est pas faite. Et là, il y a deux solutions. Soit on s'appuie sur la justice des hommes, soit en cherchant à se faire justice soi-même, soit en laissant la justice institutionnelle faire son œuvre, soit on s'appuie sur la justice de Dieu. Alors la justice des hommes, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'elle est imparfaite, elle est faillible, elle est lente, elle est biaisée, et elle est parfois incapable d'apporter la vérité. Par contre, la justice de Dieu, elle est infaillible, elle est inéluctable, et elle est parfaite. entre les deux solutions, je vous laisse choisir celle qui vous semble la plus sûre. On a parlé du psaume 78, j'aime beaucoup les psaumes, et là j'aimerais juste vous donner quelques versets du psaume 89, qui dit « Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est ce qui fonde Dieu. Dieu est profondément juste. Ainsi, laisser à Dieu la justice, c'est la première étape du pardon. Sans cela, notre cœur aura toujours cette soif de justice et risque fort de ne pas trouver ce pardon. Ça s'applique aussi bien pour des actes répréhensibles par la loi, comme ça peut être le cas pour Bart Whitaker, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça s'applique aussi, et je dirais encore plus, aux blessures grandes comme plus petites que nous pouvons subir de la part de notre entourage, de la part de notre famille, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins. Premier enseignement, l'abandon. Deuxième enseignement que j'aimerais nous inciter à suivre de la part de Joseph, c'est la sincérité. Jusqu'à ce moment de ce passage, Joseph a toujours parlé à ses frères à travers un interprète. Hein, il parlait probablement en égyptien, ses frères parlaient hébreu, et donc du coup il parlait à travers un interprète. Ce qui explique probablement pourquoi il était incapable pour ses frères de se rendre compte qu'ils étaient en face de leur frère, même s'il y avait 20 ans qui étaient passés. Et donc ils ne le reconnaissaient pas. Mais le début de ce chapitre, on l'a vu, montre Joseph sous un nouveau jour. Il fait sortir tout le monde et il se révèle à ses frères, sans intermédiaire, sans barrière, sans interprète, avec beaucoup d'émotion, on l'a dit tout à l'heure. On voit ici un homme qui est pleinement sincère, qui est vrai, qui est entier. On remarque d'ailleurs que Joseph ne nie pas le mal qui a été fait par ses frères. Il ne dit pas « Non, mais vous avez rien fait, tout s'est bien passé en Égypte pour moi, regardez !» Non, il dit pas ça. Il leur rappelle qu'il a été vendu en esclave comme Égypte. Il le rappelle. Mais au lieu de raconter toutes les difficultés qu'il a endurées, il s'intéresse à eux. Il s'intéresse à leur père. « Comment va mon père ? Est-il encore en vie ?» On sent cette émotion qui émane de cette rencontre, qui montre que le pardon de Joseph, il est sincère. Il n'est pas fin. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai deux filles, et il arrive que régulièrement, elles se disputent. Et j'essaye, je les incite à se pardonner mutuellement, et j'ai remarqué deux tendances dans ce pardon. La première tendance, c'est le pardon du bout des lèvres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Pardon. Vous avez déjà vu ça? Ouais, moi j'ai vu ça souvent. Un pardon où on sent que la sincérité, elle n'est pas là. On sent que au fond du cœur, il n'y a pas vraiment de pardon. Un deuxième, qui est le pardon « oui mais ». Je ne sais pas si vous connaissez celui-là aussi. « Oui mais c'est elle qui a commencé. Oui mais, etc. etc. » Alors, c'est des tendances, et je crois qu'elles sont pas propres à mes propres enfants. Peut-être qu'elles sont aussi pour vos enfants, mais je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Même adultes, et je dirais surtout adultes, même si c'est un petit peu plus vicieux. Le pardon de façade, parce que on sait qu'un chrétien doit pardonner, alors on dit que on pardonne, mais est-ce qu'au fond de notre cœur on a vraiment pardonné? Est-ce qu'on est sincère quand on pardonne un frère ou une sœur? Ou un pardon associé de conditions? Oui, je te pardonne, mais j'oublie pas ce que tu m'as fait quand même, hein, et on le rappelle régulièrement. Oui, au fait, tu te souviens ce que tu m'as fait il y a 2 ans, là? Hein? Vous le reconnaissez? Ben, moi, parfois, je me reconnais là-dedans. Et c'est vrai que le pardon de Joseph, il est complètement sincère, et on le voit dans toute sa vie, et on le voit encore quelques chapitres plus loin, au chapitre 50. Jacob meurt, donc le père meurt, et les frères de Joseph, en fait, ils ont toujours pas, ils croient pas en fait au pardon de son frère. Ils se disent, on a fait un truc tellement horrible à notre frère qu'en fait, il va finir par se venger. Et ils ont peur que Joseph et attendu que le père meure pour se venger contre lui. Et qu'est-ce que dit Joseph? Mais n'ayez pas peur. Puis-je me mettre à la place de Dieu? La justice, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ses paroles affectueuses, il parla à leur cœur et les réconforta. Waouh, si ça c'est pas du pardon sincère, je sais pas ce que c'est. Sincérité de Joseph dans son pardon qui nous incite nous aussi à être sincères quand nous pardonnons. Dernier enseignement que j'aimerais voir avec vous, c'est la patience. Alors, j'ai dit tout à l'heure que il s'est passé 20 ans. Oh, c'est long, 20 ans quand même. 20 ans entre le moment où ses frères l'ont effectivement vendu comme esclave et le moment où il a pu exprimer son pardon à ses frères. Il leur a sûrement pardonné dans son cœur avant, et c'est le moment où il a pu l'exprimer. Et d'ailleurs, entre le moment où ses frères viennent le voir une première fois et le moment où il se révèle réellement, il s'est passé du temps, probablement au moins plusieurs mois, voire un an. Donc, ça prend du temps quand même, le pardon, hein. Cette notion de temps me fait penser que la patience est parfois nécessaire au pardon. Une blessure, avant de commencer à se refermer, parfois demande du temps. Si je prends l'exemple de mon introduction de Bart Whitaker, son père n'arrivait pas à pardonner au début à son fils. Et c'est normal, on le comprend. Il a demandé à Dieu de l'aider, et c'est Dieu qui l'a aidé. Et il a été patient pour que ce pardon puisse être possible. Alors nous aussi, demandons à Dieu d'agir, de panser nos blessures, pour que le pardon puisse avoir lieu. Ça peut prendre du temps, et soyons patients et confiants dans le fait qu'il nous donnera la force de pardonner. Tout en précisant que nous ne sommes pas encouragés à traîner non plus, en disant « Ouh, j'ai le temps pour pardonner, je peux attendre, j'ai encore 10 ans, 20 ans, Joseph, 20 ans, c'est bon, on est tranquille. » Je rappelle juste un passage quand même, en Éphésiens 4, verset 26, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Vous connaissez ce passage. Alors, il n'est pas parlé de pardon explicitement dans ce passage, mais en général, la colère, elle est dirigée contre quelqu'un, et il est probable que cette personne ait fait du mal et que le pardon est sous-jacent. Donc, la patience, c'est aussi... La patience, il faut qu'elle soit... Elle est importante d'attendre, mais ne soyons pas non plus trop patients, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la patience, elle me fait penser aussi à une autre chose dans le pardon, c'est que parfois, c'est à nous qu'on doit pardonner. Enfin, si ça vous arrive de faire du mal aux autres, si vous êtes comme moi, c'est probable. Et nous ne sommes pas toujours la victime. Et parfois, par nos actes, nos paroles, nous blessons les autres. Et là aussi, la patience est un précieux allié pour attendre que la personne soit en capacité de nous pardonner et pour restaurer une relation et permettre que le pardon se manifeste dans toute sa plénitude. Alors voilà trois enseignements que je voulais vous partager à propos du pardon. Donc l'abandon, abandonner la justice à Dieu, la sincérité dans notre démarche et la patience. Et j'aimerais du coup en venir à ma conclusion. Et je ne pouvais pas parler du pardon sans mentionner que nous avons tous, sans exception, quelque chose à nous faire pardonner. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas anodin, quelque chose de grave, le péché, notre péché contre Dieu. Nous avons tous blessé, offensé Dieu, par nos actions, par nos paroles, par nos pensées, par tout ce que nous faisons de mal, et personne n'est épargné, et personne ne mérite le pardon de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous offre ce pardon, et il nous l'offre par Jésus-Christ. Et nous avons un merveilleux modèle de pardon par Jésus-Christ. Un modèle de pardon qui est encore plus grand que celui de Joseph et dont on peut attribuer les trois enseignements dont j'ai parlé jusqu'à présent. L'abandon. Il a abandonné le ciel. Il a abandonné sa place. Il a obéi à Dieu. Il a laissé Dieu exercer la justice contre le péché. Contre lui-même en portant le péché à notre place. La sincérité, il est venu nous parler en vérité, en sincérité. Jésus a dit souvent « en vérité, je vous le dis ». Il n'a pas mâché ses mots quand il a parlé aux pharisiens. Il n'a pas mâché ses mots quand il a dit qu'il fallait changer de vie. Et à de très nombreuses reprises, il a parlé en sincérité avec ceux qui étaient autour de lui, en leur mettant en face de leur péché. Troisième enseignement, la patience. Il a été patient pour débuter son ministère à l'âge de 30 ans. On peut imaginer tout ce qui s'est passé dans sa tête pendant ces 30 années en sachant ce qu'il allait faire. Mais il a attendu le bon moment. Il a été aussi patient envers ses disciples qui ont mis tellement de temps à comprendre ce qu'il était venu faire. Il est patient aussi envers nous, envers toi, qui peut-être n'a pas encore accepté qu'il porte tes péchés. Peut-être toi qui n'as pas encore accepté ce pardon qu'il t'offre gracieusement. Il a été patient envers moi, qui malgré les avertissements, les enseignements, tombe encore dans les mêmes travers. Envers nous, qui sommes si durs à pardonner, qui mettons nos conditions, qui cherchons à nous faire justice nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est lui qui a tout porté. Alors, tout comme Joseph a pardonné ses frères, par amour pour eux, Jésus nous a pardonné de nos péchés par amour pour nous. Alors, j'aimerais nous encourager, pour terminer, à ce que nous soyons animés de ce même amour pour pardonner ceux qui nous ont offensés autour de nous. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, ta parole est d'une richesse incroyable, et quand on pense que cette histoire s'est passée il y a des milliers d'années, on se rend compte à quel point les enseignements que nous pouvons avoir aujourd'hui, en 2022, sont pertinents, sont actuels, et on se rend compte que cette parole est une parole de vie. Merci pour ce que tu as pu nous enseigner au travers de ta parole. Merci pour ce pardon que tu nous accordes par Jésus-Christ. Et aide-nous à être... nous aussi des modèles de pardon envers ceux qui nous offensent, envers ceux qui nous font du mal, en nous appuyant sur toi, en nous appuyant sur ta justice, en étant sincères dans notre démarche et en étant patients également, Seigneur. Amen. Amen.